Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver à Canal Académie pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le grand plaisir d'accueillir Anne Salmon pour la parution de son nouvel ouvrage « Moraliser le capitalisme » qui a été édité par CNRS Éditions, 262 pages, 25 euros. Anne Salmon, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette antenne puisque, en quelque sorte, nous vous recevons ici au rythme de vos parutions. La dernière était donc « La tentation éthique du capitalisme » qui était sortie à La Découverte en 2007. On vous avait reçu ici. Ça avait été un grand succès de librairie, enfin en tout cas un beau succès de librairie. Donc on est ravis de vous recevoir. Vous donc venez de publier cet ouvrage et bien entendu vous confirmez par cette parution votre place aux côtés des plus grands intellectuels sur le sujet de l'éthique et de la morale, aux côtés des plus grands certes, mais en occupant un espace très, très personnel, voisin de celui de l'intellectuel allemand Solerjic, ainsi que Comte Sponville, qui, lui, considère de son côté que le capitalisme est amoral et efficace pour cela. Enfin, on verra quelle est votre thèse à vous dans quelques instants. Vous êtes donc professeur d'université à l'université Paul Verlaine à Metz. C'est la rentrée, donc je sais que c'est un moment très fort à la fois pour les étudiants comme pour les professeurs. Vous allez professer dans quel domaine cette année? Vous avez retenu quoi?
Sociologie du travail.
Sociologie du travail, d'accord. Alors vous êtes professeur d'université, c'est donc une très noble activité, mais vous êtes aussi philosophe et sociologue, ce qui explique donc les nombreuses parutions que vous avez publiées. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, et d'ailleurs le titre en lui-même décline un peu votre thèse, « Moraliser le capitalisme avec un point d'interrogation », peut-être vous présenter un peu plus. Est-ce que vous voulez donner quelques éléments de votre parcours complémentaire sur, en dehors du fait que vous êtes auteur, philosophe, sociologue et professeur d'université, ce qui est déjà pas mal. Vous intéressez plus particulièrement, outre les aspects éthiques et capitalisme, des recherches particulières?
Alors, il y a un autre livre qui s'appelle « Mais que font les éducateurs ?» qui est paru en avril dernier. Donc, parmi les préoccupations, le travail social m'intéresse aussi. Et je travaille aussi là sur une recherche qui s'intitule « Éthique et lutte sociale » et qui est un travail de terrain autour du syndicalisme et qui porte là sur environ 150 entretiens de syndicalistes de base pour travailler un peu, voir comment est-ce que justement les syndicalistes reçoivent ces discours, mais aussi reçoivent et peuvent participer à la construction ou peut-être à la déconstruction de la responsabilité sociale de l'entreprise notamment. Voilà.
Parfait. Donc, on en vient au cœur de votre sujet. Votre thèse centrale, que l'on peut résumer ainsi, le phénomène contemporain de production de valeurs et d'offres éthiques par le monde des affaires est-il constitutif d'une tentation de moralisation du capitalisme ou bien d'une économisation de l'éthique? Pour donner le ton, avant de rentrer dans les questions, je voudrais lire, je crois que ça donne parfaitement le ton de votre ouvrage, à page 9, ce que vous écrivez. « Moralisation du capitalisme ou économisation de l'éthique ?» Cette comparaison permet d'identifier deux besoins propres au capitalisme. D'une part, l'arrimage de son orientation économique à un système de légitimation en valeur afin de soutenir l'adhésion des acteurs. D'autre part, l'encadrement des conduites pour enrayer le mouvement par lequel cette rationalité économique peut basculer vers des pratiques guidées par le principe selon lequel la fin justifie tous les moyens. Cette double exigence, dont l'une se situe au niveau des ressources de motivation et de sens, et l'autre au niveau du contrôle des attitudes, suppose un cadre éthique ferme, d'autant plus actuellement que l'éthique des affaires apparaît dans un contexte de dérégulation organisée à l'échelle des États. Cette liberté accrue conférée aux entreprises a été une source d'inventivité financière et gestionnaire qui s'est toutefois avérée de moins en moins contrôlable. Je crois que c'est le ton de votre ouvrage est donné par ce passage. Peut-être avant que de développer tous ces aspects, je voudrais revenir sur, en quelque sorte, la façon dont vous avez abordé le sujet en tant que tel, puisque ce que l'on trouve partout dans cet ouvrage, c'est à la fois une approche purement intellectuelle, théorique, à côté donc d'une recherche beaucoup plus pragmatique de terrain et empirique. Alors, vous avez abordé le sujet comment ? Enfin, on sent que chez vous, c'est très important, ces deux aspects qui sont très complémentaires.
Oui, je pense que c'est d'ailleurs peut-être l'une des spécificités du travail du sociologue, qui est de partir d'analyse empirique. Et dans mon cas, c'est ce qui s'est produit, puisque je suis partie d'un premier étonnement. Au début, mon travail ne portait pas du tout sur l'éthique. Bon, ça se passe dans les années 90. Je suis partie d'un premier étonnement. Le constat d'une introduction massive de références à la philosophie dans le discours managérial. Donc, c'était pour le moins étonnant. Donc, on avait des références à Kant, à Socrate, à Protagoras, même à Paul Valéry, etc. Et c'est progressivement donc qu'en creusant cette question, pourquoi est-ce que le management utilise des références à la philosophie, que je me suis rendu compte que le vrai sujet, c'était celui de l'éthique. Alors, à partir de ce première esquisse d'analyse, le vrai sujet c'est l'éthique, je me suis mis à recueillir des documents d'entreprise, ce qui n'était pas facile à ce moment-là, parce que vous n'aviez pas cette diffusion aussi massive qu'aujourd'hui sur les sites internet et sur d'autres...
Donc vous êtes placé dans une perspective historique aussi.
Après.
D'accord. L'histoire se poursuit.
L'histoire, c'est après. Parce que vous avez donc cette diffusion de l'éthique, mais vous avez aussi une diffusion qui se fait dans un discours très commercial, publicitaire, sur plaquette papier glacé. Et donc la question que nécessairement qu'on doit se poser, vraiment au début des années 90, c'est est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Est-ce que c'est un objet qui vaut la peine qu'on continue à travailler ? Alors, là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité, en tant que sociologue, d'aller sur le terrain, puis d'aller interviewer des gens, notamment des salariés. Et je me suis dit que ce n'était pas la bonne façon de procéder. Je me suis dit qu'une façon de valider ce sujet, de l'éprouver, de le mettre à l'épreuve, c'était de faire un retour historique pour essayer de voir si, par le passé, le capitalisme avait mobilisé d'autres formes d'éthique que cette éthique, on va dire pour le moment, sur papier glacé. D'où cette mise en perspective historique, puisqu'il m'a semblé qu'elle était tout à fait fructueuse. Et j'ai identifié donc trois moments, trois périodes. Outre le moment qu'on analyse aujourd'hui, j'ai identifié donc la période précédente, notamment au XIXe siècle, où il m'a semblé qu'une éthique progressiste avait accompagné le capitalisme dans une phase de rationalisation du travail et de la production. Et ensuite, j'ai encore remonté dans le temps, et là, bien sûr, en m'appuyant sur les thèses weberiennes de l'éthique protestante et de l'esprit du capitalisme, pour identifier donc un autre moment qui était le moment où le capitalisme, dans sa phase de rationalisation, de l'économie, s'est appuyé sur l'éthique protestante.
Donc il a inséré un lien très, très net avec une forme de spiritualité.
Oui.
Protestante, en l'occurrence.
Voilà. Mais le travail, à ce moment-là, ne suffisait pas. Parce que vous pouvez tout à fait me dire, finalement... Et d'ailleurs, peut-être est-ce que j'étais... Ce n'est pas une analyse qui serait complètement, complètement fausse, mais qui est insuffisante, qui serait de dire, c'est un travail qui est d'orientation assez marxiste, puisqu'on met en évidence des éthiques qui pourraient être tout à fait considérées toutes les unes comme les autres, comme des discours idéologiques accompagnant des étapes du capitalisme. Je crois que c'est insuffisant parce que on va considérer à ce moment-là que l'éthique, parce qu'elle fonctionne de la même façon, que ces éthiques se comportent de la même façon, et on n'arrive pas ensuite à dégager la singularité du phénomène contemporain par rapport aux autres formes de mobilisation de l'éthique par le capitalisme. Cette singularité, je pense qu'elle est tout à fait importante, et elle va renvoyer à l'idée d'une économisation de l'éthique qui est un des éléments spécifiques de cette éthique contemporaine par rapport aux autres éthiques.
Alors, est-ce que c'est ce que vous écrivez quelque part dans votre ouvrage, l'offre éthique des entrepreneurs, entre parenthèses, les chartes, les codes, les accords de responsabilité sociale, apparaissent comme des instruments d'une adhésion à l'ordre économique destiné à se libérer des ordres tutélaires, spiritualité, morale, tout en assurant un contrôle sur les conduites individuelles pour les conformer aux exigences du système?
Justement, cette spécificité, cette singularité du phénomène contemporain, il tient, de mon point de vue, au fait que les deux éthiques dont je vous ai parlé, éthique protestante et progressiste, étaient des éthiques sociales émanant d'autres sphères, la sphère religieuse, la sphère culturelle, d'autres sphères que la sphère économique. Et de mon point de vue, et d'ailleurs Weber le souligne avec force, hein, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour soutenir l'économie qu'elle a eu cette efficace particulière. Et la spécificité du phénomène contemporain, c'est justement qu'en faisant cette analyse empirique, on se rend compte que l'éthique est produite par les acteurs économiques et immédiatement pour des finalités économiques. C'est-à-dire qu'elle se situe tout de suite, d'emblée, dans un processus d'instrumentalisation des valeurs. Et à partir du moment où vous avez une éthique instrumentale, la question qu'on peut se poser, eh bien justement, c'est celle de l'efficace de cette éthique. Et ça, dans la mesure où l'instrumentalisation de l'éthique, finalement, dévalorise les valeurs. Et dès qu'elle est...
Ce que vous appelez cette métamorphose des valeurs éthiques en bien de consommation, on sait des phrases très très fortes, hein, en bien de consommation appropriable par l'individu pour son bien-être, n'est-elle pas la source d'une future démoralisation de la société par le capitalisme? Alors ça c'est une interrogation, mais ça rejoint ce que vous dites.
Oui, on peut s'interroger sur un phénomène d'érosion des valeurs qui est lié justement à cette instrumentalisation, dans la mesure où, comme le dit fortement Habermas, il n'y a pas de production administrative de sens. Dès qu'il y a production administrative de sens, finalement, les gens s'en aperçoivent, ne sont pas dupes. Et à partir du moment où une éthique est mise au service d'autres fins qu'elle-même, elle se dévalue. Ce qui pose un énorme problème, justement, que moi j'appelle économisation de l'éthique, voilà, c'est-à-dire que l'éthique est mise au service, finalement, de la production, même de la production des biens. C'est-à-dire elle rentre comme un facteur de production dans l'entreprise et de légitimation du capitalisme, mais qui probablement tourne à vide.
Le grand changement par rapport à ce qu'on vous avait indiqué tout à l'heure, par rapport à l'éthique protestante, etc., qui était très proche quand même du capitalisme de l'époque, qu'est-ce qui diffère fondamentalement aujourd'hui par rapport à... Enfin, cette dérive, en quoi elle est accélérée peut-être par les crises ou par je ne sais quel autre élément, et en quoi... elle porte, au-delà de ce que vous venez de démontrer à l'instant, à savoir que les gens ne s'y reconnaissent pas, en quelque sorte, elle porte des dangers, notamment peut-être par rapport aux tentatives de nouvelles ordres, nouvelles organisations économiques et financières mondiales, et sociales d'ailleurs aussi, pas simplement.
Alors, accélérer, je ne sais pas. À mon avis, elle répond à un problème... qui est un vrai problème, qui est la fragilisation de l'éthique professionnelle, la fragilisation de l'éthique, donc, à l'intérieur de l'entreprise. Alors, l'identification d'un vrai problème ne suppose pas que la solution apportée soit une vraie solution. Je crois, et là vraiment de plus en plus, et ça ce sont les enquêtes de terrain auprès des salariés, puisqu'ensuite j'ai fait ces enquêtes de terrain auprès des salariés pour savoir l'adhésion ou la non-adhésion, cette fragilisation de l'éthique professionnelle doit être prise en compte parce qu'elle est un facteur de risque. Dans certaines entreprises, je pense par exemple dans le nucléaire, il est absolument nécessaire que le surcroît de réglementation s'appuie malgré tout sur une éthique professionnelle qui fait que on se sent obligé d'appliquer la règle. Puis dans les entreprises à grand risque, je pense à un exemple qui m'a beaucoup frappée et qui manifeste que l'attitude des salariés a été portée malgré tout encore par une éthique professionnelle, parce que ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Je pense donc dans une centrale, je ne dirais pas quelle centrale, mais où un feu s'est déclaré. Ce feu était très très important. Les pompiers, il fallait agir avant même que les pompiers arrivent. C'était des flammes vraiment très très importantes qui risquaient de causer des dommages considérables. Et les salariés ont eu vraiment le sentiment de risquer leur vie. Il y en a un qui s'est effondré en larmes en disant « je ne peux pas ». Donc c'est vraiment que les gens savaient que... Alors ces éléments-là me paraissent vraiment très, très importants. De même, on se rend compte qu'il y a une nécessaire coopération qui ne peut pas reposer uniquement, et les rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise ne peuvent pas reposer uniquement sur des logiques de concurrence, d'intérêt et de compétitivité.
D'accord.
Donc cet élément me paraît en compte.
Vous préconisez quoi, alors, en clair? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez constaté qu'il y a cette dérive, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, en réalité, est l'inverse de ce qu'on peut afficher. Il ne s'agit plus de moraliser le capitalisme, mais on assiste plutôt à une économisation de l'éthique. Néanmoins, vous dites que, eh bien, pour que les choses marchent, que chacun se retrouve dans son rôle, dans ses missions, que les entreprises prospèrent, il faut absolument que les gens retrouvent cette éthique. Alors, comment s'y prendre? Enfin, on ne va pas trop, bien sûr, développer les exemples dans l'actualité, parce que de toute façon, on n'est pas en mesure de le faire. Mais enfin, il y a quand même effectivement des exemples qui sont repris au plan médiatique qui montrent que les choses ne sont pas très simples. Alors que, par ailleurs, vous avez des efforts. Enfin, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Du côté des employeurs, un certain nombre de principes forts, notamment à la lumière de la crise, ont été mis en avant. Le code de déontologie du MEDEF, par exemple, bon, même s'il ne porte que sur les rémunérations, enfin, un certain nombre de choses ont été faites. D'autres ont été faites par les cadres dirigeants en matière de code de bonne conduite. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne répond pas aux besoins et qu'il y a sans arrêt cette dérive?
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément sur lequel les politiques, les nations, les gouvernements réfléchissent, et pas seulement les gouvernements, c'est-à-dire les économistes, qui relèvent de la régulation macroéconomique de l'économie. Ce que je crois, c'est que ces éléments-là sont essentiels, mais ne seront pas suffisants. C'est-à-dire qu'il va falloir de nouveau réfléchir sur les rapports sociaux internes aux entreprises, qui, dans les conditions actuelles, sont source de démoralisation et ne permettent pas, en tous les cas, qu'une éthique au travail, mais un bien-être au travail aussi, soit satisfaisante, en tous les cas. Et je crois que, outre la question de la régulation macroéconomique, il faut vraiment qu'on arrive à se repencher sur les techniques managériales et ce qui permet de faire lien. Et ces techniques managériales qui sont particulièrement individualisantes, qui cloisonnent les salariés, empêchent finalement une vitalité d'un corps collectif qui, parce qu'il se rencontre, parce qu'il se confronte, parce qu'il peut être le terreau, le creuset d'une éthique professionnelle vivante. Et...
Alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on est en avance certainement au G20 et ailleurs sur la gouvernance mondiale et la façon d'établir un ordre économique et financier et social au plan général, mais que par contre, dans les entreprises à la base, il y a cette régulation-là, elle est encore en devenir. Alors, est-ce que vous vous imaginez que c'est une insuffisance de coopération, parce qu'en fait, il y a des partenaires sociaux, il n'y a pas que l'employeur qui peut agir, il y a évidemment les personnes elles-mêmes directement concernées qui aussi doivent avoir des comportements adaptés à l'heure, à savoir au changement, et puis aussi les autres partenaires sociaux salariés, est-ce qu'ils jouent le jeu ?
Non, je ne vais pas aller sur ce terrain.
Vers où on doit porter les efforts
Il me semble qu'il faut véritablement réfléchir à quels sont les éléments aujourd'hui qui fragilisent la sociabilité nécessaire dans l'entreprise. Or, je crois que le management qui met en concurrence, qui cloisonne, qui isole dans certaines entreprises, au nom de la sécurité, on cloisonne mais vraiment physiquement les salariés, c'est-à-dire que les salariés, pour pouvoir accéder à un autre service, ont désormais des cartes. Bon, comment voulez-vous, à ce moment-là, qu'il y ait entre pairs une inculcation des valeurs qui auparavant se faisaient, ne serait-ce que parce que les gens se rencontraient. Donc, on n'avait pas le sentiment, les gens n'avaient pas le sentiment qu'ils étaient isolés. Mais je crois qu'elle est essentielle. C'est-à-dire que lorsque... tous les 3 ans, vous êtes obligé de changer de travail. Lorsque vous avez justement cette mobilité interne forcenée qui est organisée, lorsque vous n'avez plus les anciens qui eux-mêmes avaient une importance dans l'inculcation des valeurs, les anciens partent sans pouvoir transmettre. C'est-à-dire, alors, forcément, vous avez une fragilité d'une éthique professionnelle qui ne se fait plus par la base. Alors face à ça, les entreprises essayent de réagir. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles proposent des chartes sur papier glacé. Mais ces chartes, elles sont surplombantes. C'est-à-dire qu'elles ne traduisent plus du tout la réalité des rapports sociaux dans l'entreprise. Du coup, forcément, les salariés considèrent
donc
que
ça sonne
c'est
faux.
C'est un leurre.
Tout à fait, c'est un leurre.
Forcément.
D'accord.
Forcément.
Donc, moraliser le capitalisme, oui, mais vraiment. Donc,
Alors, ensuite, est-ce que la moralisation du capitalisme peut émaner d'un acte volontariste et de qui ?
Est-ce que c'est de
justement une des questions que c'est une question qui traverse le livre. Et je ne suis pas convaincue, loin de là, que ça puisse être un acte volontaire et surtout pas des acteurs économiques. Alors, la question, c'est ensuite, comment éviter que le capitalisme soit destructeur du lien social, du creuset dans lequel peuvent émerger des éthiques sociales. Et comment est-ce que le capitalisme peut ne pas être un vecteur de démoralisation des salariés dans la sphère du travail, parce que cette démoralisation dans la sphère du travail, je ne dis pas du tout qu'elle va avoir un impact sur l'ensemble de la société, l'ensemble de la fragmentation, par exemple, des valeurs morales dans la société. Je pense qu'il y a d'autres facteurs. Le facteur économique est un facteur parmi d'autres. Mais il me semble que c'est un facteur à prendre en compte parce que, bien évidemment, le salarié ou les salariés ont une vie sociale en dehors de l'entreprise et revenir dans sa famille en étant...
La vie ne s'arrête pas au travail.
La vie ne s'arrête pas au travail.
Alors, écoutez, on vous écouterait encore très très longtemps. Le temps a passé très très vite. Avant de conclure, je voudrais là encore, pour laisser nos auditeurs sur le ton général de votre ouvrage, lire un passage. Votre ouvrage est plein d'analyses extrêmement approfondies. De ce point de vue, l'étude comparative peut permettre, par-delà des identifications possibles, de dégager des singularités historiques dans les formes de mobilisation de l'éthique par le capitalisme. Ainsi que le capitalisme soit arc-bouté sur des systèmes de justification morale n'est pas en soi un phénomène nouveau. Par le passé, l'éthique protestante puis l'éthique progressiste ont effectivement fini par fonctionner comme des éléments de légitimation et de soutien à la rationalisation capitaliste. Pourtant, en tant qu'éthique sociale, ces deux éthiques sont transcendantes. Leurs racines sont enfouies bien au-delà du terreau du capitalisme rationnel moderne qui les a pourtant cultivées. Je passe et vous terminez par « En tant que processus, ils peuvent ouvrir sur des tensions dès lors que les fins et les normes instituées semblent entrer en contradiction avec les nouveaux développements du capitalisme. En tant que processus sans fin, le capitalisme finit effectivement par se trouver trop à l'étroit dans le carcan moral qui lui sert de justification, mais qui, en le finalisant éthiquement, lui fixe aussi un terme. » Voilà, donc c'est, ne serait-ce que ce passage-là mériterait de très nombreux développements. Anne Salmon, encore merci pour ce nouvel entretien.
Merci
Bravo
beaucoup.
Pour ce remarquable ouvrage.
Merci.
On lui souhaite beaucoup de réussite chez les futurs lecteurs. En tout cas, j'espère qu'on aura contribué à leur donner l'appétit de le connaître à fond. Merci à vous et à
merci.
Très bientôt.
Merci. Au revoir.